qu'il y a un mystère dans le corps. Tout cet immense rêve de pierre, rongé lentement par les termites, par les pluies et les vents, n'en continue pas moins de sourire par les yeux de ces têtes colossales, par les lèvres de ces Bouddhas, par le profil de ces dieux, de sourire à quelque chose d'inconnu qui flotte, palpite et respire mystérieusement autour d'Angkor.
Une description pour le moins emphatique des ruines d'Angkor dans les années 60 pour évoquer aujourd'hui à la une de la science une nouvelle étude sur la fin de la cité d'Angkor. Héloïse Rambert.
Oui, Daniel, c'est une étude qui a été publiée cette semaine dans la revue PNAS et qui, sans résoudre tous les mystères qui entourent la disparition de la civilisation d'Angkor, apporte tout de même des éléments très intéressants qui éclairent sur le déclin de l'ancienne capitale de l'Empire Khmer. Nous recevons Pierre Baptiste pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur au Musée national des arts asiatiques, c'est le musée Guimet, et en charge des arts de l'Asie du Sud-Est. Alors la fin de la civilisation d'Angkor fait débat depuis des décennies dans la communauté scientifique. Qu'est-ce que nous apprend cette nouvelle étude ?
En fait, c'est un peu une révolution parce que l'étude nous apprend que dès le début du XIVe siècle, le déclin s'amorce. Et en fait, jusqu'à présent, on imaginait que c'était vraiment la date de 1431 qui correspond en fait à l'invasion d'Angkor par les Thaïs du royaume d'Ayutthaya qui marquait le véritable déclin d'Angkor et que c'était après cette invasion, la destruction de la capitale, que l'élite, la cour royale et puis le reste de la population allait quitter les lieux.
Alors comment les scientifiques ont procédé pour arriver à cette conclusion et donc à la conclusion que un siècle avant, en fait, les gens étaient partis de la cité ?
Alors en fait, c'est une équipe australienne qui travaille sur le site déjà depuis de nombreuses années, qui a procédé récemment à un carottage dans la douve sud d'Angkor Thom. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont creusé avec un appareil qui permet de créer en fait un cylindre de terre qui mesure à peu près 70 cm de hauteur ou de profondeur en fait, et qui nous donne la stratigraphie du sol, du sous-sol, en dessous de cette douve. Et c'est en étudiant en fait les sédiments, et en faisant un certain nombre d'analyses assez complexes, des pollens, etc., de tous les éléments composants de cette carotte, en fait, que ces scientifiques ont pu apporter cette nouvelle vision.
C'est-à-dire qu'on voit comment la végétation a évolué, comment le sol a été travaillé au fil des années, on en déduit l'activité humaine qu'il devait y avoir à cet endroit-là.
Voilà, c'est ça, en fait. La carotte descend dans le sous-sol jusque au niveau du sol naturel, donc là où l'homme n'a visiblement rien fait, et donc on est aux alentours du tout début du 9e siècle, et puis évidemment au niveau du sol, on est presque, j'ai envie de dire, en temps réel. Et c'est effectivement dans cette stratigraphie qu'on trouve des éléments de carbone, par exemple, qui permettent de préciser si on a brûlé la forêt pour pouvoir dégager en fait le sol, et puis procéder à une agriculture plus ou moins intensive, avec les pollens qui nous précisent justement le type de plantes qu'on allait utiliser, planter à cet endroit.
Et dans les couches les plus récentes, on voit donc que cette activité est freinée puis cesse, c'est
absolument
ça ?
Oui, il y a vraiment un clivage en fait entre la partie inférieure, les deux tiers inférieurs de cette carotte et le tiers supérieur. Autour de 1300, on sent que vraiment on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'en fait la douve est visiblement en partie abandonnée, donc elle va s'ensabler et les plantes, la forêt va reprendre ses droits assez rapidement.
Et pour avoir un petit peu un repère, quand était l'apogée de la cité et comment il faut imaginer encore au moment de sa grandeur, de sa puissance ?
Alors la ville en fait a existé grosso modo du 10e au 15e siècle. Son apogée c'est vraiment le 12e siècle. On peut dire la première moitié, le milieu du 12e siècle, au moment où Suryavarman II, un grand roi qui en fait a conquis des territoires très importants presque partout dans la péninsule indochinoise. Donc le Cambodge de l'époque était beaucoup plus grand, à vrai dire beaucoup plus vaste que le pays actuel, a construit notamment le temple d'Angkor Wat qui est un des monuments sans doute les plus célèbres du site d'Angkor.
Et donc avant ces travaux, on imaginait un déclin plus tardif d'Angkor, comme on l'a dit. Quelle était la théorie qui dominait pour expliquer la fin de la cité ?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on dispose de très peu d'éléments historiques, en fait. Après 1295, au Cambodge, il y a presque plus d'inscriptions rédigées sur pierre. Et les textes historiques qui devaient exister, qui étaient rédigés sur palme, sur des matériaux végétaux, ont disparu jusqu'au 19e siècle, en fait. Et donc, il y avait vraiment un hiatus. On ne savait pas très bien ce qui s'était passé. Et plusieurs hypothèses ont donc été formulées. On a pensé que le réseau hydraulique s'était ensablé, que des variations climatiques avaient entraîné en fait une désagrégation de ce réseau hydraulique et du coup un abandon des terres par les populations qui exploitaient de manière très intensive tout le site d'Angkor qui fait à peu près 400 km².
Est-ce qu'il peut y avoir aussi des raisons culturelles ou politiques qui expliquent la fin d'Angkor ?
Alors oui, également, parce que c'est vrai que le Cambodge, dans le courant du 14e siècle, évolue beaucoup, va adopter une nouvelle religion, en fait, qui est le bouddhisme du petit véhicule, qui est toujours la religion actuelle du Cambodge, de la Thaïlande, du Laos notamment, et qui est une religion très différente dans sa mise en œuvre, qui, dans le fond, se distingue un petit peu de ce qu'on connaissait à l'époque de l'apogée d'Angkor.
Et rapidement, donc, cette date de 1431, hein, cette invasion thaï, est-ce qu'elle a encore un intérêt dans l'histoire ? Est-ce que c'est une théorie qui est abandonnée ou simplement minimisée avec ces nouveaux résultats ?
Non, ça reste un jalon. C'est certain que 1431, ça marque le coup de grâce, en fait, d'Angkor. Mais ça n'est plus une ville, le coup de grâce d'une ville qui aurait été à son apogée. Hein. C'est vraiment, sans doute, je ne sais pas si ça a été vraiment une bataille facile, mais en tout cas, ça n'aura pas été la bataille dramatique qu'on a imaginée. En tout cas, on a visiblement dû mettre à plat une cité qui était déjà en déclin.
Merci, Pierre-Baptiste, pour nous avoir fait voyager ainsi dans l'espace et dans le temps. Et merci Héloïse Rambert, à
merci
bientôt.
Merci Daniel, à bientôt.